Jules Janin, tout de bon cœur. Il ne faut rien négliger, sitôt que l'on exerce, avec un certain zèle, la profession des belles-lettres. Tout sert, ou tout du moins, tout peut servir. Qui dirait que dans un vieux recueil de sermons en latin, sans date, mais qui sent son XVIe siècle d'une lieue, un dominicain sans nom a recueilli « Sermones discipuit de tempore » 212 histoires dramatiques pour tous les dimanches et les principales fêtes de l'année. J'ai appelé ces sermons les sermons du néophyte, parce qu'il n'y a rien de magistral dans ces histoires innocentes, et que le premier écolier venu et pourrait écrire et mieux inventer. Si bien que les jeunes prédicateurs, quand ils voudront tenir leur auditoire attentif, n'auront qu'à puiser à pleine main parmi ces contes dont la naïveté fait tout le mérite. Ceci dit, le dominicain entre en matière, et parmi ces historiettes, nous choisissons la présente histoire du diable et du bailli. Ce bailli était le fléau d'une douzaine de malheureux villages du Jura, groupés autour d'un misérable château fort, où la dévastation, l'incendie et la guerre avaient laissé leur formidable empreinte. On respirait la tristesse en ces lieux désolés de longue date. Et si l'on eût cherché un domicile à l'anéantissement, le plus habile homme n'en ait trouvé le plus propice que cet âme mort de souffrance et d'ennui. La nature même, en ses beautés les plus charmantes, avait été vaincue de force de tyrannie. Dans ce lieu désolé, l'écho avait oublié le refrain des chansons. Le bois sombre était hanté par des hôtes silencieux. L'orfraie et le vautour étaient les seuls habitants de ces sapins du Nord dont on entendait les cris sauvages. Sur le bord des lacs dépeuplés, ce n'était que coassement. Le bétail avait faim. L'abeille errante avait été chassée, ô misère, de sa ruche enflammée. Il n'y avait plus de sentier dans les champs, plus de pont sur les ruisseaux, plus un bec sur la rivière. Il y avait encore un moulin banal, mais pas un pain pour la fournée. On racontait cependant qu'autrefois, les villageois cuisaient dans ce four leurs galettes de sarrasin, et la veille des bonnes fêtes, un peu de viande au fond d'un plat couvert. Mais le plat s'était brisé. L'incendie et la peste avaient été les seules distractions de ces maisons douloureuses. La milice avait emporté ses forts, la fièvre avait emporté ses petits. Quelques vieux restaient pour maudire encore. À travers le cimetière avaient passé l'hyène et le loup dévorant. L'église était vide et la geôle était pleine. Hôtel brisé, grange dévastée, le curé était mort de faim. La cloche au loin ne battait plus, faute d'une corde, avec laquelle le prévôt, par économie, avait pendu les plus malheureux. C'était la seule charité que ces pauvres gens puissent attendre. Ainsi, du Seigneur d'en haut et du Seigneur d'en bas, pas une trace. En vain, il est écrit, pas de terre sans Seigneur et pas de ciel sans un Dieu. C'était vrai pourtant, Dieu n'était plus là. Le marquis de Mondragon, le maître absolu de cette seigneurie, était absent. Sa femme n'y venait plus, ses enfants n'y venaient pas. La honte et le déshonneur avaient précédé cette ruine. Ah, rien que des lambeaux pour couvrir les vassaux de cet homme, rien que des herbes pour les nourrir. Les sangsues avaient à peine laissé sur ces pauvres un peu de chair collée sur leurs os. Malheureux. Ils avaient supporté si longtemps les gens de guerre, les gens d'affaires, les gens du roi, des princes, du sang, les officiers de la couronne, les gentilshommes au service de sa majesté, autant d'oiseaux de proie et de rapine. À la fin, quand on les vit tout à fait réduits au néant, rois, princes et seigneurs, capitaines et marquis, semblèrent avoir oublié que ce petit coin de terre exista. C'était une relâche, et cette race, taillable et corvéable à merci, peut-être finit par rencontrer l'espérance et quelques épis, si monsieur le marquis n'eût pas laissé monsieur son bailli dans son marquisat dévasté. Ce bailli, avec un peu plus de courage, eût été homme d'armes au compte de quelques ravageurs de province. Il s'était fait homme de loi, parce qu'il n'est pas osé se porter une torche ou toucher une épée. Il s'était donné la tâche unique, ayant droit de basse et haute justice à 10 lieues à la ronde, et jugeant souverainement de ne rien laisser dans les masures. Pas un œuf, pas un flocon de laine, un morceau de pain, une botte de paille. Il revenait de chaque expédition rapportant quelque chose et soupçonnant ses paysans de cacher leur argent et leur bétail. Et 4 fois par an, ce bourreau entrait en campagne et, sauf qui peut. Or, par un jour sombre et pluvieux de l'automne, au moment où déjà la bise et l'hiver s'avançaient, monsieur le bailli des sires de Mondragon sortit du château, chaudement enveloppé sous le manteau d'un malheureux fermier qu'il avait envoyé aux galères. 2 serfs le suivaient, portant 2 sacs vides. Il était monté sur un cheval bien nourri d'avoine et de loin, de si belle avoine que les chrétiens d'Océan en auraient fait leur pain de fiançailles. L'aspect de cet homme était terrible. Il s'avançait, cependant, d'un pas rassuré et réservé dans la solitude et le silence. Il comprenait que la haine était à ses trousses, que la vengeance allait devant lui. Mais rien ne l'arrêtait dans ses expéditions suprêmes. Quand il eut dépassé le cimetière et l'église, au détour du chemin, il entra dans une lande aussi stérile que tout le reste, dans un espace de vieux arbres qu'il fallait absolument franchir avant d'arriver dans ces villages de la seigneurie. Et peu à peu, ne rencontrant personne, il se sentait rassuré lorsque, d'un vieux chêne dont la tête se perdait dans les cieux, il vit sortir un homme, ou tout au moins un fantôme, qui posa sa main puissante sur la croupe du cheval. Le cheval en éprouva un soubresaut par tout son corps. Alors le cavalier, tournant la tête, osa contempler ce compagnon silencieux. C'était moins un corps qu'une image, une ombre. On voyait briller dans sa face implacable 2 yeux noirs, dont le blanc même était noir. Ça brillait, ça menaçait, ça brûlait. Monsieur le bailli n'eut pas grand-peine à reconnaître qu'il venait de rencontrer son grand-père, le diable en personne. Et celui-ci, une voix de l'autre monde. « Je sais où tu vas, » dit-il. « Je vais de ce côté. Voyageons ensemble. » Ils allèrent donc lorsqu'ils rencontrèrent au carrefour de la forêt. C'est incroyable et c'est vrai pourtant. Un paysan traînant de près lui un porc qui revenait de la glander. Il avait sauvé ce porc par grand miracle et l'emmenait dans son logis, tremblant d'être aperçu par quelque assesseur du bailli. Certes, celui-ci n'eut pas mieux demandé que d'enfouir la bête au fond d'un sac et de rentrer dans le château pour se remettre en campagne le lendemain. Mais le cheval obéissait à la main ténébreuse. En même temps, Le pauvre sot refusait d'aller plus loin, il se débattait de toutes ses forces. « Oh, que le diable l'emporte !» s'écria le paysan. À ces mots, le bailli, qui commençait à trembler fort, se sentit tout rassuré. Car c'est l'usage entre les démons de l'autre monde et les démons de celui-ci. Sitôt que le diable a trouvé sa proie, il faut nécessairement qu'il l'accepte et s'en aille au loin chercher une autre aventure. Ainsi, vous rencontreriez Satan lui-même. Vous lui donneriez à emporter la première créature qui s'offrirait à vos yeux. Top là, dirait Satan. Alors il faudrait bien qu'il se contentât d'une poule noire ou d'un mouton, moins encore d'une grenouille au milieu du chemin. Ces sortes de pactes, cependant, ne lui déplaisent pas, parce que le hasard et Satan sont de bons amis. Plus d'une fois, il lui est arrivé de rencontrer le vieux père ou la femme, ou le fils de ce même compagnon, qui déjà s'en croyait quitte à si bon compte. Hélas, c'est l'histoire d'Iphigénie, ou de la fille de Jephthé. Donc le bailli, de son petit œil narquois, disait à cet œil noir, « Puisqu'on te le donne, ô fantôme, ami, prends ta proie et va-t'en loin d'ici. Eh bien, que tardes-tu? C'est le pacte. Me voilà délivré de tes griffes. » À quoi l'homme noir répondit par un rire silencieux et de petite flamme bleue qui sortait de sa bouche. « Oui, dit-il, je tiens ma proie. On me la donne et je te quitte, à moins pourtant que ce bonhomme ne m'ait pas donné son port de bon cœur. C'est le bon cœur qui fait le présent, tu le sais bien. Il ne s'agit pas de donner les deux bouches. Il faut que la volonté y soit tout entière. Attendons. » Comme il disait encore ces mots, le diable et le bailli virent accourir du milieu des feuillets une douzaine de charbonniers qui, voyant le porc allant de tous côtés, poussèrent des cris de joie. « Oh, mon Dieu, disait-il, ami Jean, où donc as-tu trouvé tant de provende ?» Et les voilà, entourant la bête et son guide. Ils ne se contenaient pas de joie. Ils dansaient en rond et chantaient « Ami pourceau, quelle fête et quel bonheur! Nous mangerons ton sang, nous mangerons ta chair, nous ferons des saucisses, des boudins, des grillades. La tête et les pieds nous reposeront d'un long jeûne. » Et tous, ils étaient si contents, si joyeux, qu'ils ne virent pas même le bailli. Celui-ci poursuivit son chemin. « Tu le vois bien, lui disait son camarade, avec son méchant rire. Ces paysans affamés ne vont pas donner le pourceau de bon cœur. » Le bailli baissa la tête en se demandant où en voulait venir le prince des ténèbres. Il savait que de tous les logiciens de l'école d'Aristote, le diable était le plus grand de tous. Pas un argument qui ne le rétorque, et pas un syllogisme dont il ne trouve à l'instant même le défaut. Cependant, ils arrivèrent à la porte d'une cabane, et sur le seuil, ils trouvèrent une humble vieille qui filait sa quenouille en agitant de son pied lacé un petit berceau. L'enfant criait et gémissait. Il appelait sa mère. Il avait faim. La mère était au loin, qui ramassait des branches mûres, mortes. Et l'enfant criait toujours. « Oh, maudit enfant !» disait la vieille. « Que le diable t'emporte !» Ici, le méchant bailli eut encore un certain espoir. La vieille était si pauvre. Un enfant de plus dans cette cabane était une bouche de plus. Ce triste bailli s'imaginait que la corvée avait réduit ses hommes et ses femmes à n'être plus que des bêtes sauvages dans les bois. On lui dit que son compère, au pied fourchu, partageait ses idées. Déjà même, il tenait la main pour s'emparer de la frêle épave, mais c'en était fait. Le diable était vaincu. Mais sitôt que l'ombre eut touché le berceau, la vieille, au bras vigoureux encore, emporta le petit enfant du côté de sa mère. Elle arrivait, celle-ci, chargée de ramer. Monsieur loup, n'écoutez-mi, mes regonchants, son feu qui crie. Arrive donc, ma fille, s'écria la mère grand. L'enfant t'appelle, il a soif, il a faim, je ne puis que le bercer. La jeune mère, à l'instant même, jetant son fardeau, découvrit sa mamelle et le montrant à l'enfant, qui se prit à sourire. Oh, je te plains, dit le démon à son compagnon. Tu vois que j'y mettais de la bonne volonté, mais tu ne saurais soutenir que la vieille m'ait donné son petit enfant de bonne grâce. Alors, courage, et cherchons d'autres choses. Nous avons encore du chemin à faire avant d'arriver à tes besognes, mais aussi je sais bien, je suis bien bon d'écouter ces paroles en l'air. Un vieux conte l'a dit avant moi. Et ils poursuivirent leur chemin. Plus ils marchaient, plus le ciel devenait sombre, et pourtant midi n'avait pas encore sonné. Ils allaient entre deux haies, le bailli songeant à sa destinée, et cherchant quelques ruses dans son arsenal, et le démon marmottant une antienne en dérision. Les deux porteurs de sacs, parfaitement indifférents à ce qui se passait autour d'eux, car leur intime conviction les mettait à l'abri de la colère du prince des ténèbres. On lui dit que la solitude s'était agrandie et que le chemin s'allongeait de lui-même. Il n'y avait rien de plus triste à voir que ces quatre monotones voyageurs. Il y eut cependant une éclaircie inattendue. Une maison neuve et de gaie apparence. Elle était bâtie en belles pierres et recouverte en tuiles, avec des carreaux de vitre très rares en ce temps-là, qui resplendissaient au soleil. On eût dit que ce chef-d'œuvre avait été apporté tout fait dans la nuit, à l'exposition du soleil levant, sur le penchant de la colline. Une grande aisance et un ordre excellent présidaient à cette habitation. On entendait chanter le coq vigilant, les chiens jappaient, une belle vache à la mamelle remplie errait librement dans l'herbe épaisse. On entendait sur le toit rouler des pigeons au col changeant, des canards barbotaient dans la marée, le long du potager s'élevait la vigne en berceau. Le démon contempla sans envie une si grande abondance et se tournant vers le bailli stupéfait. Mais ta vie, maître égorgeur, voilà logis oublié dans des procédures. Prends garde à toi. J'irai le dire à ton maître, et sans nul doute il lui mettra à la porte un comptable, si négligent que toi. Le bailli, cependant, ne savait que répondre. Il était tout simplement heureux d'avoir rencontré cette nouvelle maman retable et honteux de n'avoir pas encore exploité cette fortune. Il en avait tant de convoitises qu'un instant il oublia son compagnon. À la fin, et s'étant bien assuré qu'il avait son cornet à ses côtés et du parchemin à la barque de Monseigneur, c'était un pot qui se brise, image parlante de la féodalité. Il chercha quelques portes entr'ouvertes, afin d'instrumenter comme un vassal assez hardi pour être un peu mieux logé que son seigneur. Les portes étaient fermées, mais la fenêtre était ouverte. Et du haut de son cheval, monsieur le bailli put contempler tout à l'aise les crimes contenus dans cette honnête maison. Le premier crime était une belle table en noyer, couverte d'une nappe blanche, et sur la nappe, au forfait, un pain blanc et du sel blanc dans une salière, un morceau de venaison sur un grand plat de riche étain plus brillant que l'argent. Alors c'est un repas tel qu'on en faisait avant la croisade sous le roi Saint-Louis. Deux gobelets d'argent étaient remplis jusqu'au bord d'une liqueur vermeille. Un hanap ciselé par un maître et de belles assiettes représentant la reine et le roi de France ajoutaient leur splendeur à toutes les richesses bourgeoises. L'ameublement n'était pas indigne de tout le reste. Enfin, deux jeunes gens, la femme et le mari, dans tout l'éclat de la force et de la jeunesse, étaient assis, entourés de très beaux enfants, vêtus comme des princes, et peu affamés, sans nul doute, à les voir riant et jasant entre eux. Pendant que M. le bailli dévorait des yeux ce repas qu'un ancien chevalier de la chevalerie errante eût trouvé cuit à point, et comme il faisait déjà l'inventaire de ses richesses suspectes, une grande et vive dispute s'éleva soudain entre la femme et le mari. Il semblait que celle-ci avait acheté, sans le dire à celui-là, un collier d'or à la ville voisine, et le mari lui reprochait sa dépense. Après la première escarmouche, ils en vinrent bien vite aux gros mots, pour finir toujours par celui-là, et rempli de danger pourtant. Ma femme au diable mon mari. En ce moment, nous convenons que même pour le diable, la tentation était grande et que la proie était belle. Une femme de 20 ans, un mari à peu près du même âge, emporter cela tout de suite représentait une heureuse et diabolique journée. Ami, qui t'arrête? Disait le bailli à son camarade. Où trouveras-tu de plus belles âmes et plus de larmes que dans les yeux de ces trois enfants? Prends ta part, j'ai la mienne, et quittons-nous bons amis. Donc, tout semblait perdu. Le bailli triomphait. La belle maison tremblait jusqu'en ses fondements. Les enfants pleuraient. Le père et la mère étaient damnés. Mais au fond de leur âme, ils s'aimaient trop pour être ainsi brouillés si longtemps. As-tu bien fait, ma mignonne? Tu as bien fait! S'écriait le jeune homme comme au cou de sa femme. Et suis-je méchant de t'avoir pour si peu grondé? Un brin d'or! Te reprocher un brin d'or quand je devrais te couvrir de diamants et de perles! Non, non, s'écria la jeune épouse avec de grosses larmes dans les yeux, c'est ma faute et non pas la tienne. Où donc avais-je enfin fait si peu de cœur que de dépenser en vanité la dot de mes enfants? Alors, quittant le cou de son mari, elle baisait avec ardeur les deux petits garçons et la jolie petite fille aux yeux bleus, les enfants ne sachant pas s'ils devaient rire ou pleurer. Et lorsqu'enfin ils eurent tous les cinq essayé ces douces larmes et retrouvé leur sourire, ils posèrent le petit collier sur la tête de la Madone en guise d'ex-voto, et tous les cinq, agenouillés sous les yeux de la Divine Mère, ils récitèrent les mains jointes: Nous vous saluons, Marie, pleine de grâce, Seigneur. Ici, le diable se sentit si touché qu'une larme s'échappa de ses yeux et tomba sur sa joue. On entendit pst, pst, le bruit d'une goutte d'eau sur le fer brûlant. Le bailli, lui, ne fut pas touché le moins du monde. Il sentit grandir sa furie et, pour toute chose, il ne voulut revenir sur ses pas. Mais avec le diable, il faut marcher toujours en avant. Il est la voix qui dit « Marche et marche !» En vain voulez-vous faire halte en ce bel endroit du paysage enchanté. Marche et marche! En vain la ville offre à ses vieux des beautés singulières. Marche et marche! En vain le libertin demande un moment de répit pour quitter les mauvaises mœurs et se marier à quelque innocente. Allez, marche, et marche! Il y a même des instants où le traître et le tyran feraient trêve assez volontiers à leurs manœuvres criminelles. Marche en avant, tu as laissé passer le repentir, arrive, en boitant, le châtiment qui va te prendre. Ainsi l'ambitieux, quand il renonce à l'ambition, l'avare à l'argent, le soldat au meurtre, et le débauché à ses plaisirs d'un jour, marche, marche, faut obéir jusqu'à l'abîme entrouvert. C'est la nécessité. Monsieur le bailli marchait donc. Toutefois, comme il était rusé et passé maître en diablerie, lui aussi. Mais c'est bon droit, dit-il à son compagnon, d'aller en avant par le chemin que je choisirais. C'est trop droit, reprit l'autre, incontestablement. Sur quoi le bailli rassuré prit un petit sentier par la montagne. Oh, ce sentier allongeait le voyage d'une grande lieue. Et le diable, on l'a traversé facilement, eut quelques soupçons qu'il était joué par le bailli. Oh, tu me tends un piège, dit-il. Jouons, comme on dit, carte sur table, et que chacun de nous soit content. Monseigneur, reprit le bailli, chacun son tour. Vous me tenez tout à l'heure. Et maintenant, c'est moi qui vous tiens. Maladroit, c'était bien la peine de courir toute la contrée et de me tendre ainsi tous les pièges pour tomber dans mon embuscade. Mais où sommes-nous en ce moment, mon camarade? Ne vois-tu pas que nous entrons dans le sentier qui mène au couvent de Sainte-Croix? Le couvent a disparu. C'est moi qui l'ai rasé. Je me suis emparé de tous ces domaines. Mais j'ai respecté le calvaire élevé sur ces hauteurs-là, le jour même de la Passion. Et dans ce calvaire sont contenues les reliques de Saint-Pierre, martyr de Sainte-Europe, de Saint-Barthélemy, de Sainte-Catherine, vierge et martyr, et des 10 000 crucifiés. C'est là que je vous attends, messieurs démons. Nous verrons si vous osez me poursuivre à l'ombre de la croix. Qui fut contrarié de ces déclarations, ce fut Satan. Il s'en voulait d'avoir négligé ce formidable rempart que les saints avaient dressé de leurs mains pieuses sur la montagne. Il savait d'ailleurs la force et l'autorité des certaines reliques enfouies dans ce calvaire. Il s'en voulait enfin d'être une dupe de ce bailli de la pire espèce et d'avoir rencontré plus fin que lui. C'était sa bataille de Pavie. Oh, je prendrai ma revanche une autre fois, se dit-il en maugréant. Cependant, comme il ne voulait pas s'en aller, les mains vides, bon, va chercher fortune ailleurs, dit-il au bailli. Si du moins tu veux me donner ces 2 vilains hommes qui marchent à ta suite, est-ce dit, est-ce fait? Ah non, vous n'aurez pas ça de moi, reprit le bailli, en faisant craquer contre sa dent jaune un ongle aigu. Ces 2 hommes sont nécessaires à ma haute et basse justice. Celui-ci est le bourreau de nos domaines. Pas un mieux que lui ne s'entend à fustiger de verges sanglantes un rebelle, à fleurir d'un fer chaud, marqué de 2 fleurs de lys un braconnier. Arriver la chaîne au cou d'un forçat destiné à ramer à perpétuité dans les galères de sa majesté. Cet autre est le concierge de nos prisons et le parleur de nos sentences. Il excelle à prendre un débiteur insondable, et plus d'une fois il a fait rentrer de belles sommes dans nos coffres. De l'un et de l'autre, il m'est impossible de me passer. Partez donc comme vous êtes venu, les mains vides, et bonsoir, maître démon. Ainsi parlant, la montagne était déjà gravie à moitié. Le diable allait partir lorsqu'il s'avisa de se hausser sur ses ergots. Là, voyons, dit-il avec un rire de mauvais présage, au moins, promets-nous d'épargner quelqu'un de ces malheureux. Non, non, pas un seul, reprit le bailli. Ils m'ont causé trop d'ennuis ce matin. Épargne du moins, bailli de malheur, les habitants de la maison neuve. Bon, pour cela, leur compte est fait. J'aurai ce soir dans ma poche le collier d'or. Et si tu repasses dans un mois d'ici, la ronce et le chaume rempliront tout cet espace. Mais le petit enfant à la mamelle, il paiera le lait de sa mère. Et le pourceau, mes acolytes et moi, nous mangerons ce soir. Enfin, ni pardon, ni pitié. Ni pitié, ni pardon. Et ici, l'épouvante arrête la voix du bailli dans sa gorge. Il regarde, il ne voit plus le calvaire. En vain, son regard interroge et fouille en tous sens. La croix saine qui devait le protéger est abattue. Oui, là, reprit Satan, tu cherches en vain ta force et ton appui. Les malheureux que tu as faits ont abattu le calvaire, et à force de misère, ils ont cessé d'espérer et de croire. Insensé, voilà les ruines que la malice et la lâcheté devaient prévoir. Ces désespérés se sont vengés sur les reliques des martyrs, et maintenant, c'est toi qui seras châtié des profanations de tous ces malheureux. À cette révélation dont il comprenait toute la justice, le bailli tomba de son cheval, et le cheval, soulagé de son double fardeau, l'homme et la main du diable repartit au galop en faisant une telle pétarade avec tant de soleil, des bombes, des fusées, d'artifice qu'elle suffit à solenniser la fête du plus grand roi de l'univers. Voyant l'homme écrasé sous la honte et la peur, Satan le releva doucement, comme eût fait un tendre père pour son fils unique. Et tous les quatre, ils descendirent la pente assez douce qui conduisait aux divers vergers de cette abominable seigneurie. Ils frôlèrent les premières maisons sans entendre autre chose que des gémissements et des larmes, mais pas encore une malédiction. Ces gens avaient peur et tremblaient de tous leurs membres. Le malade arrêtait son souffle et l'enfant brisait son jouet. La femme, épouvantée, alla se cacher dans quelque fente. Et les chiens oubliaient d'aboyer. Mais enfin, quand ils eurent ainsi parcouru toute une rue, on entendit sortir de ces charmes en débris, des murmures, des cris, des plaintes, des malédictions. La malédiction unanime allait sans cesse et grandissait toujours. Et au second village, voisin du premier, la colère avait remplacé la plainte, et les malheureux criaient « Arrière, le brigand qui m'a volé mon fils! Mort au scélérat qui fit périr mon père sous le bâton! Voilà le monstre impitoyable !» Et les enfants de jeter des cailloux et des pierres à cette hauteur d'incendie. « Rends-nous le pain !» disaient les femmes. « Rends-nous l'horreur !»« Rends-nous l'honneur !» disaient les hommes. « Rends-nous les arts, les lits et les berceaux !»« Regarde, la faim nous mine, et nos mains défaillantes ne pourraient plus tenir les outils que tu nous as volés !» À ce bruit immense, où les dents grinçaient, où les yeux flamboyaient, où ses poitrines, hâves et desséchées, sortaient des sons rauques et des sifflements pleins de fièvre, accouraient villageoises et villageoises, et de leurs doigts vengeurs, désignant cet homme impie, ils criaient tous « Au diable, au diable, au diable !» Et l'écho répondait « Au diable, au diable !» Alors Satan, d'une voix qui remplit la plaine et le mont, « Camarade, il était convenu que je n'accepterais qu'un présent fait de bonne grâce et tout d'une voix, sans que pas un des donataires y trouvât à redire. Eh bien, que t'en semble ? Et que dis-tu de cette unanime malédiction ? Pour le coup, tu es à moi, bien à moi. Pas un qui te réclame ou te pardonne. » Et prenant le bailli par les deux épaules, il suspendit à un chêne qui n'avait pas moins de 60 pieds de hauteur. Toute la contrée applaudit à cet acte de vengeance. Hélas, à défaut de justice, on se venge. Voilà pourquoi il faut être juste avant tout. Cet homme étant disparu du domaine, on vit peu à peu reparaître en ces lieux dévastés l'ordre et la paix. L'église fut rebâtie, et de nouveau la cloche appela les fidèles à la prière. Ils obéirent à l'appel sacré, justement parce qu'ils avaient cessé d'être misérables. Les femmes furent les premières à quitter leur hallon pour des habits simples et de bon goût. Les hommes revinrent à la charrue, à la herse, à tous les instruments qui font vivre et réjouissent l'humanité. Le pourceau, sauvé par miracle, en eut une progéniture abondante. Le petit enfant grandit et devint un grand justicier, chef d'un parlement dont la voix était souveraine. On ne s'étonna guère lorsqu'un matin le vieux château fut éventré, dont les matériaux servirent à faire un aqueduc, un pont, une chaussée. Enfin, vous avez deviné que le nouveau seigneur était justement le jeune homme de la maison neuve. Ils avaient commencé par renoncer à leurs droits de potence, à leurs droits de galère et de gibet. Ils avaient fait de la potence un indicateur et une indication pour guider les voyageurs dans la forêt. Nous avons encore à raconter une aventure et tout sera dit. Le jour où disparut le bailli, les anciens du village, qui avaient gardé leur sang-froid, avaient très bien vu que Satan, de sa main pleine d'éclairs, avait gravé on ne sait quoi sur la branche la plus haute du vieux chêne. Le vieux chêne mourut de vieillesse, et les bûcherons, en le dépouillant de sa couronne, y trouvèrent ce mot mémorable, écrit en lettres de feu : « Justice !»